Voilà, les Juifs reviennent. On dirait qu'ils sont jaloux que leur foi, la foi qu'ils aient, la foi juive, passe aux nations, alors qu'elle était faite pour cela. Ils veulent garder pour eux leur propre mission. Là, il n'y a plus de mission. La mission passe à travers nous. Quand survint l'Antioche et l'Iconium des Juifs, et ayant persuadé les foules, et ayant lapidé Paul, ils le traînaient hors de la ville, s'imaginant qu'il se trouvait être mort. Mais comme les disciples l'avaient encerclé, s'étant dressé, il entra dans la ville, et le lendemain, il sortit avec Barnabas et Derrière. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nous dans l'histoire de l'Église? Ça veut dire que nous semons la parole. Et que nous n'avons pas à nous interroger sur le résultat de cette parole et sur le succès de cette parole. Mais que nous devons pouvoir le faire à fond perdu. Et c'est bien cela qui est difficile. C'est d'être vraiment des témoins et des témoins authentiques. Et il y a toujours dans notre vie, dans notre témoignage, un écart énorme entre la parole que nous disons et qui nous juge en même temps que nous la disons. J'en suis moi-même très conscient. Il y a toujours un décalage énorme et un péché fondamental entre cette parole qui nous juge et la manière dont je la reçois et dont je la transmets. Il est là le péché. Et nous voudrions toujours posséder en quelque sorte cette parole et voir jusqu'à quel point elle réussit. Dit en termes tout à fait honnêtes, jusqu'à quel point nous réussissons à la faire passer. Or, ça n'est pas de notre ressort. Il faut pouvoir mourir, recevoir des pierres. C'est-à-dire lâcher vraiment tout l'apport que nous amenons avec nous-mêmes. Lâcher notre propre témoignage. Sinon, Paul ne peut pas devenir lumière pour les nations. Mais ça va très loin. Et on voit bien ici de nouveau que la barre est beaucoup, beaucoup trop haute pour ne pas la passer. Et donc, le fait que nous ne pouvons pas passer cette barre nous manifeste véritablement notre péché. Mais le fait de découvrir notre péché ne nous replie pas sur nous-mêmes et ne nous culpabilise pas. Mais ce fait-là nous montre jusqu'à quel point la parole du Seigneur doit encore nous transfigurer. C'est une espérance étonnante. C'est pourquoi Paul peut dire dans sa deuxième épître aux Corinthiens, quand je suis faible, c'est alors que je suis faible et que je suis fort. Parce que c'est justement au creux de ma faiblesse que je découvre qu'il y a une puissance en moi qui me dépasse. Mais qui ne devient effective que dans la mesure où je me lâche. Or, vous voyez ce que nous faisons d'habitude, c'est quand quelqu'un a du mal de sauter, il reste toujours accroché. Il voudrait bien continuer d'être sur le tremplin et d'être dans le saut en même temps. Et il risque de rester sur le tremplin. C'est la plupart du temps, c'est ce que nous faisons. Nous restons accrochés à notre tremplin. Et au lieu de laisser le tremplin agir dans notre course, et nous laisser emporter par le tremplin. Oui. Une analogie, bien sûr. Mais c'est cela qui est marqué ici, non plus maintenant, dans la personne des disciples de Jésus, mais dans la réalité des églises concrètes. Un chemin d'église concrète. Donc maintenant, il y a une évaluation qui va se faire. Parce que vous pourriez me dire, mais alors si je lâche tout, je ne peux pas évaluer mon travail. Moi aussi, je peux évaluer mon travail. Mais dans quel esprit? Si j'évalue mon travail en comptant le nombre de communions, le nombre de baptêmes, etc., peut-être bien que ce n'est pas tout à fait une évaluation. Ce n'est pas de cet ordre-là. L'évaluation du travail, c'est de me montrer jusqu'à quel point je suis de moi-même inefficace. Montrer combien j'utilise des moyens qui essaient de récupérer la parole. Ça. Donc, l'évaluation, c'est vraiment une mise en question profonde de notre activité apostolique. Et c'est difficile à consentir, cette affaire-là. Alors, on va retourner à Antioche. On va avoir des bagarres à Antioche. Les uns vont dans un sens, les autres vont dans l'autre, comme dans nos églises, c'est tout à fait normal. On conteste cette manière de faire. Pourquoi est-ce que tu as été là? Comme disait-on à Pierre, pourquoi est-ce que tu as été te mettre dans la gueule des païens? Et ici, mais pourquoi est-ce que vous avez baptisé des gens alors qu'ils n'avaient pas fait leur noviciat? Donc, tout leur catéchuménage. Certains étaient descendus de la Judée, enseignant aux frères, si vous n'êtes pas circoncis, suivant la coutume de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Mais qui est-ce qui sauve, finalement? Est-ce que c'est la loi de Moïse ou est-ce que c'est Dieu? Et si Dieu est passé comme parole dans la loi de Moïse, il est passé comme parole incarnée dans la personne de Jésus de Nazareth. Allez plus loin. Lâchez votre loi de Moïse pour découvrir combien Jésus est la loi de Moïse épanouie. Oui, ce chemin-là n'est pas facile à faire. Pas facile à faire pour nous non plus. Surtout que ce n'est pas nécessairement parce que c'est nouveau ou parce que c'est un changement que c'est bon. Il faut pouvoir discerner si ce nouveau ou ce changement est vraiment l'Esprit Saint. Et bien ça qu'il faut discerner. Et pour pouvoir le discerner, nous dit Luc, hein, on peut voir d'autres schémas, et Luc nous en donnera, mais pour pouvoir discerner cela, il faut que la communauté entière soit rassemblée, ce qui se passe à Jérusalem, la communauté, les anciens, les apôtres, et que deux personnages qui sont ici, Pierre et Jacques, bon, il se fait que Jacques, c'est le pasteur attitré de la communauté de Jérusalem, communauté particulière, et Pierre, qui est encore un de ces apôtres itinérants. Il n'a pas encore trouvé son lieu. Et il ira à Antioche avant d'aller à Rome, nous dit la tradition. Mais ce n'est même pas dit dans les actes des apôtres. Pierre est toujours considéré ici comme itinérant. Et cependant, il a une parole à dire. Et vous remarquez, c'est pour ça que je l'ai appelé prophète, cette parole, il l'a dit à partir d'une expérience. L'expérience qu'il a faite lui-même. Cette expérience est double. Cette expérience, c'est d'abord la Pentecôte, c'est l'Esprit Saint. Et deuxièmement, cette expérience, c'est d'avoir vu cet esprit de Pentecôte, lui pouvait quand même le discerner, puisqu'il l'avait vécu, et de voir cet esprit de Pentecôte tomber sur une communauté de païens. Et il fallait mettre les deux choses ensemble. Pour pouvoir mettre les deux choses ensemble, ben, il fallait peut-être qu'il soit libéré de l'attente du peuple des Juifs. C'est-à-dire qu'il accepte vraiment cette universalité. C'est ce qu'il dit. Eux ont reçu le même esprit que nous, et nous sommes sauvés par le même Jésus que, le même ressuscité que. Alors, est-ce qu'il faut encore discuter sur la question? Il montre comment, dans les événements concrets, les choses ont été suscitées et signées en quelque sorte par Dieu. Et donc c'est ce qu'il nous dit. Et Jacques, à qui incombe le soin de dire, mais pastoralement, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut quand même prendre des mesures pour dire cela. On doit vivre ensemble. Alors, si les uns apportent leur tartine au jambon, et les autres apportent leur pain sec avec quelques légumes, ça va peut-être pas aller. Il faut trouver une manière de vivre ensemble. Donc, respectez donc messieurs les païens qui arrivaient ici et qui vous pressez au portillon, hein, messieurs les païens, respectez donc le juif. Il est votre frère aîné et il y a des choses qu'il ne supporte pas. Que vous mangiez du boudin, ça ne va pas. Voilà. Voilà, on va faire du végétalisme. Oui, non mais pour exprimer un tout petit peu feu, qu'on puisse vivre ensemble. L'Esprit Saint, c'est quand on peut vivre ensemble au-delà de ces différences. Et voilà, c'est... on est là, on est arrivé là, et on retourne à Antioche. Vous aurez remarqué qu'il y a un va-et-vient entre Antioche et Jérusalem, pour bien montrer que ce qui se passe à Jérusalem ne se passait à Antioche, et vice-versa. Pour montrer que l'Église est vraiment la même. On commence à pouvoir parler de l'Église avec un grand prix. Mais c'est l'Esprit Saint qui la force. Ce n'est pas l'homme lui-même qui fait le plan quinquennal. C'est ça qu'on veut marquer. Bon, j'espère que je vous ai maintenant rendu les choses un tout petit peu plus claires. Tout petit peu plus claires. Nous allons, si vous voulez bien, maintenant faire une pause, je te dis de la nuit. Et nous allons alors entamer la quatrième section, d'un côté comme de l'autre. J'espère que j'aurai moyen de la présenter de façon claire et précise aussi. Donc, une montée et arrivée à Jérusalem, qui nous voulons le voir sur le plan géographique. En fait, cette quatrième section de l'évangile de Luc va nous montrer que le royaume, la parole de Dieu, n'est pas une réalité statique, mais qu'elle est un événement, c'est une rencontre, un moment où Dieu, Jésus, se rend véritablement présent dans la vie de tout un chacun, mais à des moments divers, et se rend également présent dans la vie des communautés, des pays, des sociétés, mais aussi à des moments divers. Et voyez, cet ensemble de chapitres qui va de 17 à 21, nous avons essayé de trouver un titre ou un double titre qui puisse dire les deux grandes parties de ce texte. Donc, d'une part, il faut dire que le royaume vient, il advient, il y a une venue, nous disons cela en français en parlant d'un événement. Le royaume est un événement, la royauté de Dieu, c'est un événement, donc c'est une réalité qui vient, qui advient, donc qui n'est jamais totalement advenue. C'est de l'ordre de la réalité concrète et historique. Et puis en même temps, et ça, c'est quelque chose qui est vrai pour chaque homme. Nous avons dans notre vie, à un moment, ou des moments particuliers, et que l'on peut taper dans le temps et dans l'espace, dans des moments de rencontre personnelle avec Dieu en Jésus ressuscité. Que nous en soyons conscients au moment même ou non. Ça, c'est la première partie de l'évangile, de ce passage de l'évangile, qui est centré autour de ce que j'appelle une fenêtre. Au-dessus d'une fenêtre. Elle est ouverte, bien entendu. Une fenêtre en termes d'Ancien Testament, ça se dit une apocalypse. C'est-à-dire une révélation, une ouverture, une découverte. Apocalypse ne veut en tout cas pas dire destruction ou chaos ou des choses de ce type-là, bien qu'on parle de vision d'Apocalypse. Une vision d'Apocalypse, c'est une révélation de la réalité profonde des événements. C'est ça une vision d'Apocalypse. Et ça peut se passer dans le secret des cœurs et dans une prière silencieuse. Ça ne veut pas nécessairement se passer dans un chaos ou dans une guerre. Si c'est décrit comme cela dans le livre de l'Apocalypse, c'est pour une autre raison. Le royaume est vraiment un événement. Et cet événement, c'est quoi? C'est donc une venue de Dieu dans notre propre réalité concrète. Mais en deuxième lieu, donc ça c'est le chapitre 17. Il y a une Apocalypse au chapitre 17. Nous allons y venir tout de suite. Au début de la séquence. Et il y a une deuxième apocalypse au début du chapitre 21. Il y a un plan à la fin, je vais vous faire une petite fenêtre. Vous montez bien une seconde, voilà. Il ne faut pas oublier l'accoudoir, hein. Une deuxième apocalypse. Et cela, on pourrait dire que c'est la venue de Dieu. La venue de Dieu. Je dis bien de Dieu. De la réalité divine. Dans nos histoires. Je dis maintenant nos histoires parce que l'homme, le païen, chacun d'entre nous, à son histoire. Dans le peuple d'Israël, il y a une histoire du salut. Une histoire qui dit le sens de toutes les histoires humaines. Mais dans notre vie profane, disons-nous, dirions-nous, nous avons des histoires. Il y a l'histoire de France, il y a l'histoire du Canada, il y a des histoires tout à fait particulières. Il y a des histoires de nos sociétés. Et nous avons des collectivités, et ces collectivités, ces sociétés, sont d'un certain type, où ce qui fait la loi, disons, généralement, c'est un consensus. On se met d'accord sur un certain nombre de lois. Une confédération, un fédéralisme, une Europe. On se met d'accord et on négocie pour avoir une constitution. Une constitution où chacun, avec ses particularités, peut en quelque sorte se reconnaître. Donc ça c'est une vision de Luc, hein, qui nous montre d'une part l'importance des individualités, des personnes, dans la première fenêtre, chapitre 17, et en même temps l'importance des collectivités, des sociétés, hein, et ça c'est la deuxième apocalypse, deuxième fenêtre. Je vais prendre ces deux apocalypses. Et puis, le reste, j'irai beaucoup plus vite pour montrer tout ce qui est autour de la fenêtre. Mais ces deux apocalypses sont importantes. Vous voyez, si vous regardez la matière, ce dont traite Luc dans ces deux chapitres, vous retrouverez à peu près tout dans le chapitre 13 de Saint-Marc. C'est de là que vient vraisemblablement sa source. Chapitre 13 de Saint-Marc. C'est-à-dire le seul discours qu'il y a dans Saint-Marc, discours de Jésus sur le mont des Oliviers avant sa passion. On l'appelle souvent discours eschatologique, c'est-à-dire le discours sur la fin, le mot de la fin. C'est ça, hein, eschatologique, ça veut dire le mot de la fin. Et vous avez toujours ces textes au début. À la fin, pardon, d'une année liturgique et au début de l'année liturgique suivante. Et justement, on nous parle de cataclysme, et c'est si bien que nous avons un petit peu en tête que ces discours nous parlent de cataclysme et de rien d'autre. C'est vrai qu'ils nous en parlent, mais il ne faut pas être l'évangile pour en parler, il suffit d'ouvrir votre poste de télévision, vous regardez votre journal, et vous verrez qu'il y a... Il y a des images de ce type. Il y a des séismes, il y a des guerres, il y a des fornications, il y a des manifs, il y a des rêves. Donc c'est la réalité dans laquelle le monde vit. Alors le problème de l'évangile n'est pas de nous décrire cela, mais à partir de toutes sortes de clés que vous retrouvez dans, notamment chez Daniel et chez Ézéchiel, de nous dire que c'est à l'intérieur de cela que le Seigneur vit, à l'intérieur du concret de nos situations. Alors, il va nous introduire à cela en nous montrant, hein, au verset 11 à 19 du chapitre 17, et il arriva pendant qu'il faisait route vers Jérusalem. C'est sur le trajet, sur l'itinéraire de Jésus vers le Père. Eh bien, il traverse la Samarie, c'est-à-dire un pays plutôt hostile, et là, il rencontre 10 lépreux, c'est-à-dire des exclus, pays hostiles, donc on lui est exclu. Il rencontre des lépreux, donc des hostiles, une communauté de 10, et qui se tiennent debout à distance, pour bien montrer qu'ils ne peuvent pas contaminer les gens qui passent par là, et il leur dit, Ayant fait route, faites-vous voir au prêtre. C'était le prêtre qui devait voir si on était guéri ou non. Donc Jésus guérit les hommes de leur lèpre. Des Samaritains, une dizaine, une communauté. C'est une communauté. Communauté de prière. Et puis il les envoie pour que le prêtre leur révèle qu'ils sont guéris. La lèpre symbolise, la lèpre, c'est d'abord la lèpre, hein, bien. Mais elle symbolise, elle défigure l'homme, elle défigure son aspect extérieur. Donc elle symbolise une défiguration de l'image de Dieu dans l'homme. Un lépreux, c'est quelqu'un qui n'est plus image de Dieu, qui n'apparaît plus comme image de Dieu. Et donc il restaure ces hommes-là, et effectivement, ils sont guéris, mais il y en a un qui vient rendre grâce. C'est-à-dire, il y en a un qui découvre la source de sa guérison. Il y en a un qui reçoit, si vous voulez, sa guérison, non plus comme un dû, mais comme une gratuité totale. Il vient rendre grâce. C'est-à-dire qu'il vient vraiment accepter sa guérison comme un cadeau. Et alors Jésus lui dit, t'es endressé, fais route, ta foi te trouve ta voie sauvée. Il y a une différence entre guérir et sauver. Guérir, c'est un signe extérieur, sauver, le salut, c'est une réalité beaucoup plus profonde. C'est restaurer l'homme dans sa dignité de fils. Et alors, vous voyez, il se pose ici, dans ce contexte-là, dans ce contexte de salut, qui est donné par la venue de Jésus dans un groupe, ayant été questionné par des pharisiens qui demandaient « Mais quand vient le royaume de Dieu ?» On voudrait quand même bien savoir quand, hein ? On va l'inscrire dans son agenda. Et Jésus répond « Le royaume de Dieu ne vient pas à vue d'œil, on ne voit pas. » Et on ne dira pas, voici, il est ici ou il est là. Car le royaume de Dieu est en dedans de vous. On peut traduire ce « en dedans » de deux manières. Ou bien au dedans de chacun, au cœur de chacun, ou bien parmi vous. Il est déjà présent parmi vous. Le royaume de Dieu est déjà actif. Et alors, Jésus fait un petit discours qui est un discours, on va dire un discours type, il reprend des images que vous retrouvez bien sûr chez les prophètes, et ces images nous parlent effectivement de ce que nous appelons cataclysme. Il dit à l'adresse des disciples, viendront des jours où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme. C'est-à-dire, vous voudriez vraiment découvrir votre rencontre avec le Fils de l'homme. Et vous ne le verrez pas. On vous dira, voilà, il est là, il est ici, mais vous ne l'éloignez pas, ne courez pas après. Vous ne devez pas courir après le royaume. Le royaume vous atteint. C'est ça qu'il veut dire. Il est déjà là. Essayez de le découvrir là où vous êtes. Mais, en tout cas, une fois qu'il arrive, on le reconnaît. Effectivement, tout comme l'éclair brille de l'horizon à l'horizon, quand il y a un éclair, on le voit. Hein. Ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Il viendra quand il veut. Or, il lui faut d'abord souffrir beaucoup. Donc, le Fils de l'homme, on voit bien que c'est le ressuscité. Donc, ce n'est pas encore Jésus tel qu'il est dans sa vie publique. C'est vraiment quand il sera ressuscité. Or, il lui faut d'abord souffrir beaucoup et être exclu de cette génération. Être exclu, le terme est ici tout à fait clair, être exclu de cette génération, il faut qu'on le mette dehors. Et selon qu'il arriva au jour de Noé, ainsi en sera-t-il au jour du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui arrive au jour de Noé? Bien, les gens, ils vivaient la vie. Ils mangeaient, ils buvaient, ils épousaient, ils donnaient comme épouse. Puisqu'au jour où l'œil entra dans l'arche, et bien des lui, il les perdit tous. C'est-à-dire, on s'occupe dans notre vie. On s'occupe, on fait des trucs. Ces trucs ne sont pas mauvais, évidemment, hein. Manger, boire, c'est nécessaire. Épouser, marier comme épouse, c'est indispensable, hein. Mais vers le déluge, j'ai perdu tous. C'est pas le but ultime de notre existence, cela. Notre existence, elle se juge à la mort. Semblablement aussi ce qu'il arriva au jour de Lot. Parle de Noé, parle de Lot. Parle de Noé. Noé, ça symbolise l'eau. Et l'eau, c'est très bon, c'est excellent, mais aussi ça détruit. Et puis maintenant, il va parler du feu. Le feu, c'est excellent, ça chauffe, mais aussi ça détruit. Semblablement aussi au jour de Lot. Ils mangeaient, ils buvaient, ils achetaient, ils vendaient. Ils plantaient, ils bâtissaient. On construit, l'homme construit. Or, le jour où Lot sortit de Sodome, Dieu fit pleuvoir du ciel feu et soufre, et il les perdit. De nouveau, c'est devant la mort qu'on reconnaît le sens de sa vie. On ne dit pas que ces choses sont mauvaises, on dit que ce n'est pas le sens ultime. C'est vrai qu'il y a une parole de la fin. Et c'est la fin qui va déterminer la signification de toute notre existence personnelle. De la même façon, en sera-t-il le jour où le Fils de l'homme est révélé, le Fils de l'homme est révélé, où le ressuscité apparaît dans nos existences. En ce jour-là, celui qui sera sur la terrasse, il aura ses affaires dans la maison, qu'il ne descende pas les enlever. Autrement dit, quand le Fils de l'homme vient me rencontrer, j'ai besoin de rien d'autre. Je n'ai pas besoin de mes affaires. Il est mon affaire. Gardez en souvenir la femme de l'homme. Elle se retourne pour voir ce qui se passe, hein, et est transformée en statue de sang. Celui qui éventuellement aura cherché à acquérir sa vie, c'est-à-dire à lui donner un sens à partir de lui-même, il la perdra. Il devra bien lâcher ce sens. Et celui qui éventuellement perdra sa vie, c'est-à-dire ne cherchera pas en lui-même un sens à sa vie, il ne la sauvera pas. Il recevra le sens que Dieu lui donne. Je vous le dis, cette nuit, ils seront deux sur une seule couche, l'un sera pris, l'autre laissé. Elles seront deux venues moudre ensemble, l'une sera prise, l'autre laissée. Elles seront deux dans un champ, un sera pris, l'autre laissé. C'est-à-dire que la venue de Dieu dans chacune de nos existences, je ne travaille pas à la chaîne, elle se passe à des moments divers. Tantôt c'est l'un, tantôt c'est l'autre, l'autre laissé. Et il ne faut pas vouloir tout mettre sous le même patron. Et alors les apôtres, ayant répondu, lui disent, « Où, Seigneur ? Où est-ce que ça va se passer ?» Ils ont demandé, « Quand ? En où ? Où ça va se passer ?» Là où sera le corps, là aussi le retour sera sans corps. Parole tout à fait énigmatique, qui peut vouloir dire, certains pères de l'Église l'ont vu dans ce sens-là, eh bien, quand il y a un corps qui est suspendu, donc qui est crucifié, les vautours tournent autour. Ça peut signifier cela. Donc, attendez que Jésus soit mort. Où se trouve vraiment la rencontre avec le ressuscité? D'autres pensent, eh bien, aussi vrai que quand vous voyez des vautours tournoyer, vous savez qu'il y a un corps, eh bien, lorsque Jésus, le ressuscité plus exactement, entre dans notre existence, ça se perçoit. C'est possible. Mais il y a un accoudoir à la fenêtre. Or, il leur disait une parabole sur le fait qu'il leur faut prier sans cesse en tout temps. Et ne pas se décourager jamais. L'accoudoir, c'est la prière. Autrement dit, pour pouvoir vivre une existence où vous vous préparez sans cesse à rencontrer le Fils de l'homme, au milieu des vicissitudes, des réalités de ce monde, la prière est le chemin pour vous permettre de le rencontrer. Et de fait, c'est la prière qui prélude à la venue de l'Esprit-Saint à la Pentecôte. Et alors il raconte une parabole. Il y avait un juge dans une ville qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas l'homme. Et il y avait une veuve dans cette ville-là. Et elle venait auprès de lui en disant « Venge-moi de mon adversaire. J'ai personne hein, pour me défendre. » Il ne voulait pas, durant longtemps. Et après ceci, il se dit en lui-même, même si je ne crains pas Dieu, et si je ne respecte pas l'homme, du moins, en raison de ce que cette veuve me procure sans cesse du tracas, je la vengerai. Je vais quand même m'occuper.
Arriéré judiciaire.
Voilà.
Arriéré judiciaire.
C'est ça. Afin qu'elle ne me casse pas la tête sans cesse. Il vous en est capté tout de même, il me casse le pied. Venant seul jusqu'à la fin. Alors le Seigneur dit, écoutez ce que dit le juge de l'injustice. C'est un type injuste, c'est un type hein, qui ne craint pas Dieu et qui ne respecte pas l'homme. Or Dieu ne fera-t-il certes pas la vengeance de ses élus, qui clament vers lui jour et nuit, même s'il patiente avec lui. Laissez un petit peu au Seigneur le temps de la patience et soyez sûr de lui. Je vous le dis, il leur fera vengeance en plénitude. Pourtant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Pas le problème. C'est possible de vivre cela du moment qu'on est la foi. Pour pouvoir patienter indéfiniment parfois, ce qui nous paraît indéfini, pour pouvoir patienter, attendre le moment où il nous rencontrera, il faut avoir la foi. Est-ce que vous lui faites confiance? Et c'est juste après ça que vient la parabole du pharisien et du publicain. Pour tester notre prière, justement. On prend cette parabole, on la sort du contexte, évidemment. Mais ici, c'est un test de la prière. Écoutez un petit peu comment vous priez. Comment vous priez comme l'un ou comme l'autre. C'est-à-dire, vous vous priez vous-même. Ça arrive, vous arrive souvent. Bien, vous priez justement, vous découvrez que vous êtes pécheur, mais ayant découvert que vous êtes pécheur, est-ce que vous tournez la page, ou bien est-ce que vous recevez la joie de la présence de Dieu au cœur de votre péché? Si nous nous culpabilisons, nous ne pouvons pas recevoir la joie du pardon, c'est pas possible. On s'enferme en soi-même. Maintenant, je vais passer à l'autre, chapitre 21. C'est intéressant de passer, justement. Ça se trouve, ce chapitre 21, dans cette autre fenêtre, se trouve dans un tout autre contexte. Car, effectivement, on est arrivé à Jérusalem, au chapitre 19e, verset 28, on y volait jusque 19-28, et ayant dit ceci, il faisait route devant, montant vers Jérusalem. Vous voyez, et c'est cette phrase qui encadre l'ensemble. Puisque en 17-11, il arriva pendant qu'il faisait route vers Jérusalem. Et à la fin, en 19-28, et ayant dit ceci, il faisait route devant, montant vers Jérusalem. Donc ça englobe le tout dans un ensemble. Autrement dit, je pourrais dire comment Jésus vient-il dans nos réalités concrètes. Et si vous regardez, il y a des paraboles, le pharisien et le publicain, il y a des rencontres, Jésus rencontre des enfants, Jésus rencontre un riche notable, il rencontre les 12 qui posent des questions à partir de ce notable, il rencontre l'aveugle sur la route de Jéricho, il rencontre Zachée, des rencontres particulières. Pourquoi des rencontres particulières? C'est la venue du Fils de l'homme concrète dans la trame des vies particulières. Et puis il nous raconte une histoire bizarre, hein, c'est une relecture, un remake, comme nous disons aujourd'hui, de la parabole des talents de chez Matthieu. Et on parle des mines et pas des talents, et puis on historise tout ce bazar-là, difficile à comprendre, et je passe là-dessus, si nous avons le temps, on y viendra, mais ce n'est pas indispensable. Ce qui est indispensable, c'est de comprendre, c'est ceci. Autour de cette fenêtre, c'est que nous avons tous des rencontres de Dieu dans nos existences. est-ce que nous pouvons les reconnaître et est-ce que nous le laissons exister? Ou bien est-ce que nous sommes tellement préoccupés par manger, par boire, par acheter, par vendre, par construire, par bâtir, par nous marier, etc. Nous sommes tellement immergés dans tout cela qu'il n'y a plus de place pour la rencontre. Notez qu'il nous dit la même chose que Matthieu dans ses chapitres 24-25. Car l'équivalent, vous le trouvez en Marc 13, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais vous le trouvez aussi en Matthieu 24-25, avec trois paraboles à la clé. Et un jugement définitif en plus, en prime. Mais c'est la même réalité dans une théologie un peu différente. Donc c'est, mais Luc, mais, tandis que Marc et Matthieu lient la rencontre individuelle et la rencontre collective, il ne fait pas de distinction. Luc, au contraire, a séparé en deux. La matière d'un chapitre, il l'a distribuée en deux et il les a écartés l'un de l'autre. Chapitre 17, chapitre 21. L'un s'occupant des destinées individuelles, personnelles, une rencontre, l'un est pris, l'autre laissé, tous les deux ont mou à la même meule. Ça ne veut pas dire nécessairement, il y en a un qui meurt la nuit et l'autre ne meurt pas, hein, pas ça. Ça veut dire, l'un va rencontrer le Seigneur, peut-être en train de moudre sa meule, l'autre pas encore. Il va peut-être rencontrer à un autre moment. Et donc là, nous devons laisser au Seigneur l'initiative de la rencontre. Nous devons nous y préparer, la prière est faite pour ça. Le Seigneur vient.
C'est le ministère de la liberté de l'homme.
C'est ça. C'est ça. Dieu vient. Comment est-ce que je le reçois? Et il est trop respectueux de nous pour nous imposer sa présence. Il vient souvent sur la pointe des pieds. Et là où nous ne pensons pas. Donc, soyez prêts. Vous ne savez pas à quelle heure vous devez être sorti.
Il ne s'agit pas de vendre avec Jésus. Mais c'est curieux qu'il fait la comparaison. Hein? Si le voleur venait. C'est drôle. Hein? Et ce qu'il veut dire, hein? Ce n'est pas bien sûr le vol, il s'agit de l'imprévu. Pourtant, on sait qu'il peut venir. Et ça demeure toujours imprévu. La rencontre avec Dieu. On sait bien. Et pourtant, on est chaque fois désorienté quand il vient. Alors, disons-nous que c'est normal. Et on peut comprendre pourquoi Pierre a été désorienté. Parce que son attente n'était pas encore tout à fait pure. Mais il nous faut toujours passer par une certaine mort. La mort de nos projets. La mort de certains de nos désirs qui deviennent des convoitises, au lieu d'être simplement des promesses de Dieu.
Quand un proche meurt, on s'y attendait, on est tout dépourvu aussi.
Alors je prends le chapitre 21, et je reviendrai en arrière. Une manière de voir les choses. Hein. Donc, je prends le chapitre 21, verset 5. On est maintenant dans un autre contexte, on est arrivé à Jérusalem, donc ici, si vous voulez, c'est sur la route vers Jérusalem, et il y a des paraboles montrant toutes, ou bien testant notre manière de prier, ou bien montrant que nous avons à rencontrer, et il y a des rencontres, et les rencontres sont contre. Et comme je vous le disais, il ne demande pas de Zachée la même chose que de jeune homme riche.
Tu écris prière dans ton acte.
Ah oui. Merci. Sans la prière, je ne suis pas ouvert. La prière me vide. La prière ne me donne pas ce que je désire. Elle me donne beaucoup plus. Elle me vide. Prière. Ici, j'ai une prière sur la couloir. Ici, il faudra que je mette une prière sur la couloir aussi. Mais ici, le contexte n'est plus sur la route vers Jérusalem, le contexte est à Jérusalem et dans le temple. C'est intéressant, parce que Jérusalem symbolise évidemment une société. Le c'est une société particulière, une ville. Une ville, c'est un vivre en société. Le temple, c'est ce qui fait l'unité de la ville, la présence de Dieu. Et donc, nous pouvons vraiment parler, en parlant de Jérusalem, de nos histoires collectives, nos sociétés, nos civilisations. On avait interrogé Jésus au sujet du royaume de Dieu au début du chapitre 7. On avait interrogé au sujet du royaume de Dieu en se demandant quand il vient. Et ici, et alors, ici, on parle du temple. Le temple est important parce que c'est la présence de Dieu. Il ne faut pas se tromper de présence. Parce qu'au nom de la présence de Dieu, on peut louper la présence de Dieu. Alors, les gens s'intéressent au sujet du temple. Mais ils ne prennent que l'extérieur. Il y a des églises se vident. On peut regarder uniquement les églises qui se vident. Mais il y a peut-être des cœurs qui se remplissent. Il faut peut-être regarder aussi les cœurs qui se remplissent. Mais, alors, comme quelques-uns disaient au sujet du temple, décoré de belles pierres et d'ex-voto, effectivement, on venait de l'avoir reconstruit, embelli, etc. Ils disent que vous observez, ce que vous observez là, hein, ce magnifique temple. Des jours viendront où il ne sera pas laissé pierre sur pierre. Et ce temple est resté embelli comme il avait été par Hérode une quarantaine d'années de vie, même pas. Tout ça a été brûlé. Et même les pierres ont éclaté. Parce que ce sont des pierres de chaux et qui gardent une certaine humidité. Et quand elles sont dans la chaleur, l'humidité qui est dans ces pierres boue en quelque sorte, devient de la vapeur et fait éclater les pierres. Il ne restera pas pierre sur pierre, hein, disait Jésus. Ce que vous observez, hein, ce beau temple, des jours viendront où il ne sera pas laissé pierre sur pierre, il ne sera détruit. Il le questionnait en disant, Rabbi, quand ? On veut toujours savoir. On veut ramener les choses à nos dimensions humaines. Quand et où ? Quand et quel sera le signe ? Quand éventuellement cela va arriver ? Puisqu'on doit être prêt à se préparer. Celui-ci, regardez de façon à ce que vous ne soyez pas égarés. Car beaucoup viendront en mon nom en disant, c'est moi. C'est moi je suis. Hein. Il n'y a que Dieu qui dit, c'est moi, je suis. Et quand les gens disent, c'est moi, faites attention à moi, hein, c'est ce que disent tous les gens qui veulent se faire élire aux élections. Hein. Et le moment se trouve, s'est approché, ne faites pas route derrière eux. Quand éventuellement vous aurez entendu parler de guerre, de bouleversement, ne soyez pas terrifiés. Car il faut que ceci arrive d'abord, mais ce n'est pas aussitôt la fin. Autrement dit, ne majorez pas les catastrophes. Vous voyez la fin partout. Mais non, ça peut continuer. La catastrophe n'est pas là. Les Matthieu et Marc disent ça un peu autrement. Ce ne sont là que des douleurs d'enfantement. Ça veut dire qu'il y a une vie qui passe à travers cette souffrance. Luc ne retient pas cette phrase. Alors il leur disait, se lèvera nation contre nation, royaume contre royaume, il y aura des tremblements de terre, et selon les lieux, des pestes et des famines. Il y aura des choses effrayantes, de grands signes venant du ciel. Et avant tout cela, ils jetteront la main sur vous, ils vous persécuteront, vous livreront en synagogue et aux prisons, vous emmenant devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. C'est tout ce qui se passe dans l'Église primitive. Hein. Paul lui-même part devant roi et gouverneur, c'est pourquoi ils vont garder le même titre chez saint Paul, dans les Actes des Apôtres. Cela aboutira pour vous à la témoignage. Tout ça, c'est très bien, vous pouvez rendre témoignage à travers tout ça. Mettez donc dans vos cœurs, il ne dit pas dans vos têtes, hein. Mettez donc dans vos cœurs, de ne pas sans cesse vous soucier d'avance de présenter votre réponse. vivez l'événement au jour où il vient et n'allez pas le vivre avant. Ça ne sert à rien. Pourquoi? C'est parce qu'il y a un Saint-Esprit quand même, hein? Car moi, je vous donnerai une bouche prophétique, et une sagesse à laquelle nous pourrons s'opposer ou contredire tous vos opposants. Vous voulez savoir comment il faut répondre? Mais faites-moi donc confiance. Laissez-moi parler à travers vous. Ce n'est pas évident, ça. Hein? Parce qu'on se dit, je ne suis pas capable de répondre. Donc, savez-vous, vous n'êtes pas capable de répondre. Même oui, d'accord. Je ne suis pas capable de répondre, moi non plus. Qui est en doute? Oh, vous serez livrés, et par des parents, et par des frères, et sur votre parenté, et des amis. Et on en mettra à mort parmi vous, et vous serez haïs par tous en raison de mon nom. Intéressant ça, hein? Vous serez haïs par tous en raison de mon nom. Pourquoi est-ce qu'on vous hait? Mais parce que ma présence est en vous, dont vous êtes témoin, et ça c'est important. Et on vous tape dessus. Mais c'est intéressant ça qu'on vous tape dessus. En raison de mon nom. C'est parce que vous êtes devenu moi en quelque sorte. Et il est en train de nous faire réfléchir à ce que signifie le témoignage. Et pas un cheveu de votre tête, certes, ne sera perdu. Il ne parle évidemment pas de ces cheveux-là, hein. Il reste sur le plancher du coiffeur et après. C'était. Dans votre constance,
la coiffeuse
vous vient de.